Grand Format, une émission culturelle et religieuse.
Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour écouter votre émission Grand Format. Aujourd'hui, premier volet d'une conférence donnée par Mgr Georges Soubrier au Centre spirituel de Kerguénec le 24 juillet 2019. Mgr Soubrier fut évêque du diocèse de Nantes de 1996 à 2009, puis évêque émérite en raison de son âge. Actuellement rattaché à une communauté de prêtres de Saint-Sulpice, il prêche de nombreuses retraites et anime des journées de réflexion spirituelle. Le thème de sa conférence, « Me confesser, pour qui, pourquoi, comment ?» Une journée sur le pardon. Nous l'écoutons.
Quand on m'a proposé, parce qu'on m'avait dit il y a plusieurs sujets, mais deux en particulier, ben, un sur la confession, le sacrement du pardon. Je me suis dit, ça, c'est pas tout à fait d'actualité quand même. Je me suis dit, bon, l'actualité, ce serait quoi aujourd'hui ? Ben, si j'écoutais les informations, tout d'abord une réalité que nous portons tous douloureusement. C'est quand même l'épreuve que vit l'Église. Et en disant, est-ce que votre parole est crédible ? Je vois encore quelqu'un me dire récemment, et quelqu'un qui est vraiment un penseur chrétien très attaché à l'Église, mais quand même, ça me travaille, tout ça, qu'il ait pu y avoir des choses aussi graves, des doubles vies, des... Bon, alors, c'est... Bon, l'Église vit, et une purification qui est très importante pour l'Église, actuellement. Bon, sujet. Mais je sais que cela a été aussi abordé ici, avec en particulier tout le groupe de consultation, réflexion. C'est aussi autour de l'écologie, l'encyclique, l'exhortation apostolique aussi du pape François, souvent commentée. Puis cette jeune Suédoise, Greta, qui vient et qui pose cette question à l'ensemble. C'est encore aussi les lois de bioéthique, tant de choses. Mais je me suis dit, il y a une actualité quand même du côté du pardon. Aujourd'hui, la réconciliation, la paix, quand on voit dans tant et tant de situations avec tout ce qui se vit, puis à l'intérieur même de notre... Alors parler réconciliation, quand on parle du sacrement de la réconciliation, c'est pas déserter la réalité. Sans quoi, nous ne serions pas des disciples du Christ, des disciples missionnaires. Bon. D'autre part aussi, c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent. Pour ma génération, le sacrement du pardon, tel qu'il était présenté, ce modèle, curé d'Ars, qui le reste toujours d'ailleurs. Et en même temps, comment on le vit différemment, avec toutes les évolutions qu'on a connues aussi dans l'Église, que l'on connaît. Et puis dans ce monde, pour dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment péché ? C'était plus simple quand on avait des choses un peu précises à dire. Et alors, est-ce que ce ne serait pas d'actualité que de discerner ce qui, dans notre vie, est vraiment est désaccord avec ce que le Seigneur nous appelle à être et à vivre ? Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est tout d'abord nous situer dans la parole de Dieu. De cette manière, avec un bref temps de prière, et je prendrai une hymne que nous connaissons, mais je lirai simplement les strophes, et puis je vous proposerai, après et avant chaque strophe, de chanter un refrain de psaume. Cet hymne, c'est « Point de prodigue sans pardon qui le cherche ». C'est dans la montée vers Pâques, quand on dit « Les yeux fixés sur le Christ », en qui se dit la miséricorde de Dieu, mais cette miséricorde de Dieu qui fait la vérité en nos cœurs, on a l'image du fils prodigue. Prodigue, avec tout ce qu'il y a là, quelquefois de recherche de Dieu, puis en disant, est-ce qu'on n'est pas quelquefois tellement loin de lui ? Blessure, ténèbres. Alors, entrons, si vous voulez, dans la prière, pour accueillir cette parole de Dieu qui n'est pas à côté de notre vie, mais qui vient au cœur de notre vie, laissons cette parole se dire. Un peu comme on le fait par exemple à Thésée. Il y a un refrain de Thésée que j'ai toujours dans la tête. depuis longtemps et là, même actuellement ou par les retraites, l'accompagnement spirituel. Qu'est-ce qu'on chante à Thésée ? Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Les ténèbres parlent et nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas de ténèbres. D'ailleurs, la lumière à laquelle nous croyons, elle ne brille pas à côté des ténèbres. Elle brille dans les ténèbres. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ne laisse pas les ténèbres me parler. Mes ténèbres. Parce que c'est vrai, on pourrait avoir tout un temps de réflexion pour dire qu'est-ce qui pose question, qu'est-ce qui est vraiment pas clair, qu'est-ce qui est complicité avec le mal, même à l'intérieur de l'Église. Ne laisse pas mes ténèbres me parler. Oui, je parle des ténèbres, mais ce qui est important, ne pas laisser les ténèbres avoir le dernier mot, sans qu'on coule, comme Pierre, quand il est sur le lac, et qu'il dit, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne-moi de venir à toi. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Tant que la parole de Dieu parle, tant qu'il entend la parole de Dieu, il marche sur les eaux. Mais le jour où le vent, la tempête, les ténèbres parlent plus fort, il coule. Bien pour nous aussi, c'est bien au cœur de cette parole de Dieu entendue que nous pouvons, là, parler des ténèbres, mais pas laisser les ténèbres avoir le dernier mot. Alors, voilà, nous pouvons chanter. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Et puis je lirai chaque fois une strophe de l'hymne, ce sera notre prière. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Point de prodigue sans pardon qui le cherche. Nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils renaît, joie du retour au Père. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Point de blessure que sa main ne guérisse. Rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Point de ténèbres, sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Vienne l'aurore où l'amour surgit, chant d'un matin de Pâques. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, à cette communauté d'Église en prière que nous sommes. Comme tu as répondu à Jésus ton serviteur, quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit. Qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer libre et confiante vers le matin de sa Pâque. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul n'est trop loin, rien n'est fini. Rien n'est perdu pour Dieu. Écoutons ce passage d'Évangile que nous connaissons bien. Je n'ai pas donné de feuilles parce que chaque fois, les références seront assez courtes, celles que je donnerai, et puis vous permettront comme ça de retrouver facilement. Mais je lis attentivement. Quand ces mots retentissent là, dans nos vies, par rapport à toutes les situations que nous pouvons connaître, point de prodigue sans pardon qui le cherche. Rien n'est fini, rien n'est perdu pour Dieu. Nous pensons à une rencontre, celle de Jésus avec Zachée. C'est en Saint-Luc, au chapitre 19, du verset 1 au verset 10. verset 10, où il y a ces mots, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » On peut discuter à perte de vue sur le mal, sur le pardon, sur le sacrement du pardon. Si on n'entend pas ces mots, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu », eh bien, on ne s'ouvre pas à la lumière de Dieu. Et pourtant, c'était surprenant. Parce que Jésus est entré dans une maison où il ne devait pas rentrer. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Sur vint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts, il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite !» Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Le pardon, c'est la rencontre de deux désirs. C'est le désir du Christ, Jésus qui monte vers Jérusalem pour donner sa vie jusqu'au bout, pour venir nous rencontrer là où nous sommes, avec toutes nos aspirations, tout ce qu'il y a de bon en nous, mais aussi tous ceux qui vraiment là créent en nos vies des obstacles et que nous percevons aussi comme des obstacles dans la vie des autres. Désir de Jésus et en même temps le désir de cet homme, Zachée. Remarquez bien, Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Ce n'est pas simplement un sentiment de curiosité en disant « on parle tellement de ce Jésus, je voudrais bien voir qui c'est ». Il cherchait à voir qui était Jésus. C'est-à-dire que le pardon de Dieu, c'est d'abord cette rencontre de deux désirs. Qu'est-ce que tu cherches vraiment ? Parce que Zachée, il entendait tellement de choses sur Jésus. Certains disaient « c'est un prophète ». Il réalise des choses, mais incroyables. D'autres disaient qu'il était possédé. Ils disaient, oh là, pour avoir une telle autorité, un tel pouvoir sur le mal, il faut bien qu'il ait quelque complicité avec le mal. Et puis les gens de la famille disaient, on ne le comprend pas. Il a perdu la tête, il est hors de lui. Oh, ce qui était un peu plus savant, disait... Ah, c'est Élie qui revient sur la terre, ce prophète qui avait été emporté dans les cieux, là, sur un char de feu. Ou d'autres disaient, comme Hérode, ce Jean-Baptiste, là, que j'ai fait mettre à mort. Mais si c'était lui qui est ressuscité. Rencontre de deux désirs. Parce que c'est toujours cela, hein, dans l'Évangile. La rencontre avec les premiers, là, les premiers appelés, hein, venez, puis vous verrez. Ils cherchaient à voir, ils allaient vers Jean-Baptiste, et puis Jean-Baptiste dit, voilà, c'est lui, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le désir, tout commence par là. Et un désir, quand c'est un vrai désir, il s'inscrit dans la liberté. Vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, avec aussi hein, tout ce qu'il y a de positif, sans quoi on dirait il y a le bien, il y a le mal, non, il y a plein de choses aussi qui se vivent. Hein. Ben notre monde, il confond souvent pulsion et désir. Pulsion, voilà, pulsion, ceci s'ajoute à cela. Le désir, c'est quelque chose de plus profond. Hein. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Marquez que souvent dans l'Évangile, ce sera la question de Jésus. Hein. Que veux-tu que je fasse pour toi? Prêche pas mal de retraite, mais souvent je dis, la vraie question pour nous, ce sera au bout de quelques jours la question que Jésus nous posera. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ben ceci, cela, on déballe plein de choses, plein de choses. Ben Zachée, là, sur son sycomore, avec tous ceux qui l'habitaient, là, et puis l'image qu'il avait autour de ses, par rapport à ses compatriotes, hein, il était habité par ce désir.
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Monseigneur Georges Soubrier nous parle du pardon.
Alors, le désir. Et puis le regard. Le regard. Et chercher à voir. Et c'est Jésus qui arrive à cet endroit, levant les yeux. C'est étonnant, hein? C'est Jésus qui lève les yeux. D'habitude, dans les psaumes, on dit « lever les yeux vers Dieu », oui. Mais le Seigneur, hein, comme dit Sylvain Bobin, vous savez, dans son très beau livre sur François d'Assise, le très bas, le très haut, c'est aussi le très bas. C'est celui qui nous regarde, hein, non pas de haut, hein, mais qui dit « Mais si je suis venu jusqu'à vous, hein, c'est pas pour te regarder de haut ». Et alors, le regard. Deux regards se croisent et le monde bascule. Désir qui appelle le regard, le vrai regard. Et puis après, il y a le nom. Il est appelé par son nom. La parole qui se dit, c'est d'abord cette parole pleine d'infini respect. Zachée, Zachée. Lui, Zachée, le méprisable, le méprisé, oh, le publicain, le collecteur d'impôts, il est appelé par son nom. Marquez, c'est toujours frappant dans l'Évangile aussi. Hein. Regardez comment, après la résurrection du Christ, hein, Marie de Magdala, que nous avons fêté récemment, là, eh bien, c'est quand Jésus dira, Marie-Madeleine, Myriam, Marie, appelé par son nom. Il est appelé par son nom. C'est-à-dire, il se découvre au-delà de son personnage social. Il est rejoint dans l'intime de l'âme. Et quelqu'un que vous avez sans doute entendu, peut-être ici, une fois ou l'autre, qui n'est plus à Nantes, maintenant jésuite, Claude Flippot. Claude Flippot qui a écrit un très beau livre, hein, sur justement des personnages dans l'Évangile, 50 portraits. Il dit ceci. Zachée, le méprisable, le méprisé, là, est celui qui est connu, rejoint dans cet intime de l'âme, demeuré intact, là où le Saint-Esprit dort incognito sous les vieilles peaux de ses complicités. Il y en avait des peaux, hein. Il y en avait des couches là de peau, hein. Mais Jésus n'est pas arrêté à cela. Hein. Voilà. J'y reviendrai une fois ou l'autre, parce qu'il y a là quelque chose de très important, en particulier quand on parle du sacrement du pardon et l'importance aussi du dialogue. Enfin, j'y insisterai, parce que là, ce lieu où on peut se dire en vérité, et pour dire en vérité ce qu'il y a au fond de notre être, pas seulement ce qu'on éprouve et tout ça, mais le malgré tout, vous savez, le malgré tout. Souvent, là, parce que j'apprends beaucoup aussi, j'apprends beaucoup comme évêque, j'espère, bien, et puis aussi dans l'accompagnement spirituel, c'est cette découverte, enfin, quand on peut dire quelque chose de profond, et je dis souvent le malgré tout. Voilà. Des gens, vous savez, qui disent, mais je viens, vous savez, si je vous dis tout, hein, vous serez un peu scandalisé, peut-être. Puis bon, écoutez, vous pouvez quand même. Et puis, et je dis ceci. Mais vous êtes là. Vous êtes venu me voir. Il y a malgré tout en vous quand même. Par rapport à des personnes aussi que nous pouvons connaître, un peu désespérées, et puis qui nous disent quelque chose. Puis on garde quand même des liens. Ce malgré tout. Ce malgré tout, C'est ce qu'il y a souvent de plus vrai au fond de la personne, par rapport à tout ce qu'elle a fait ou commis, hein, ce malgré tout. Ben sachez, voilà. Le désir, le regard, la parole. Et puis la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle ? Descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Je veux venir chez toi, demeurer chez toi. Regardez l'importance de ce mot « demeurer » dans l'Évangile, tout particulièrement dans l'Évangile de Jean. Hein. On peut faire toute une lecture de l'Évangile à partir de ce mot « demeurer ». Où demeures-tu ? Celui qui demeure en moi. Et voilà, c'est chez lui que le Seigneur vient demeurer. Mais t'es arrivé quelquefois dire, je ne sais pas, des communautés religieuses, hein, je viendrai bien vous voir. Monseigneur, venez, mais pas dans cette période, parce qu'on va avoir le commissaire aux comptes. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, c'est une période souvent prenante. Sachez aurait pu dire, ben, Seigneur, quand même, ma maison, hein, pas bien en ordre, hein. Les dossiers, tout ça, puis il y a des choses un peu suspectes, je vais arranger tout ça quand même. Non, non, mais demeurez chez toi, tout de suite, descends vite, il me faut demeurer chez toi. Nous allons voir aussi combien ce sera important aussi pour découvrir ce qu'est le sacrement du pardon. Je veux demeurer chez toi. Jésus vient et demeure chez lui. Et c'est là que s'opère la conversion. C'est-à-dire, c'est à cause de la présence du Seigneur, là, qui est chez lui, qu'il découvre vraiment, là, ben, qu'il est aimé, parce que pour pouvoir se dire, il y a trois choses essentielles. Je disais tout à l'heure, quand on parle du sacrement du pardon, et c'est pour ça que je me dis, c'est quand même un sujet d'actualité, il y a trois choses importantes. Et vous le savez aussi mieux que moi, dans l'éducation, tout ça. Pour pouvoir faire la vérité, il faut être aimé, estimé et dans la fidélité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la vérité, on ne peut pas aider les autres à faire la vérité s'ils ne sont pas aimés. Ce n'est pas un amour n'importe comment, mais c'est voilà aussi hein, ce malgré tout et qui se traduit de cette manière. Être estimé, c'est-à-dire reconnu. Et puis, voilà, dans la durée, que ce ne soit pas simplement un coup de cœur d'un moment, oui, mais après, qu'est-ce qu'on en deviendra ? On pourrait dire ceci, parce que souvent, vous savez, après, on devient concret et on se dit, bon, pour moi, il y a deux événements, deux rencontres que j'ai vécues à Nantes, là, quand je pense à, voilà, demeurer chez toi, une vraie rencontre. Une, c'était dans un collège catholique de Nantes, hein, qui recevait des élèves en difficulté. Alors je rencontrais, le directeur d'école m'avait dit, ça irait bien, là, les quatrièmes, troisièmes. Mais vous étonnez pas, hein, ils sont directs, ils vont vous poser des questions. Alors vous savez, comme toujours, hein, première question, j'appelle ça un peu l'indicatif, bah, pour entrer dans un échange, c'est l'évêque. Hein. Comment vous avez fait pour devenir évêque ? Bon, bah, est-ce que c'est la fin de votre carrière ? Est-ce que vous espérez devenir cardinal ? Je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Bon, ça, c'est des questions, très bien. Puis après, souvent, des jeunes, cet âge-là, c'est aussi l'Église, puis des questions sexualité, tout ça. Bon, bah, oui, il faut apporter aussi une lumière. Puis une fille qui lève le doigt, qui me dit, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive de mentir pour vous tirer d'affaire ? Eh bien, je me suis dit, voilà, ça, c'est la vraie question. Alors, peut-être j'ai fait un jugement téméraire. Je me disais, bon, elle arrive à la maison avec bulletin de notes. Elle dit, oh oui, mais c'est le prof, il a des préférences, il ne me comprend pas, c'est ceci, cela. Bon, on invente des salades, comme disent les jeunes. Hein. Bon, et... Bon, j'ai dit, tu sais, ne m'oblige pas à dire peut-être un mensonge de plus, hein. Mais enfin, tu vois, je crois que je suis assez libre. Je sens que, bon, je suis assez bien accueilli dans le diocèse. Hein. Et je peux dire, ben là, c'est vrai. Peut-être quand j'ai dit cela, c'était pas juste, ça tenait pas compte de la réalité. Ou bien, bah voilà, je me suis planté, bon, on va dire des choses aussi directes. Hein. Bon, et alors j'ai dit ça. J'ai dit, tu vois, il faut être aimé, reconnu, et dans la fidélité. Bon. Et puis une autre fois, c'était avec Amitié Espérance. C'est ce groupe, hein, là, de partage avec des personnes, problèmes psychologiques, déprimes, tout ça, puis leur famille. Et alors, c'est un père de famille qui a raconté ça. C'était une rencontre où il y avait, c'est une rencontre nationale des représentants de ce groupe. Et alors, voilà, fils schizophrène, avec plein de choses difficiles à vivre. Puis il avait trouvé un petit emploi, là, mais ça se passait plutôt bien. Il servait dans un bar. Puis un jour, un soir, il revient à la maison en disant « j'y reviens plus ». Puis j'ai tout dit au patron que j'avais des idées suicidaires, que j'avais ce traitement, que j'avais ceci, que j'avais cela. Alors voilà, je suis parti comme ça. Bon. Et le père, hein, lui dit « écoute, voilà, c'est bien fatigué, bon, repose-toi, bon, te tracasse pas ». Puis le lendemain matin, il lui dit « écoute, quand même, ce patron-là, tu étais bien chez lui, hein, tu l'estimais bien. Alors, bon, bah, tu es parti, mais peut-être on pourrait aller lui dire au revoir ». Alors, ils vont le revoir. Et il accepte, le jeune, d'aller dire au revoir. Et bon, le jeune, là, atteint de schizophrénie, dit au patron, mais tout ce que je vous ai dit hier, enfin, tout ça, quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il dit, écoute, tu m'as dit, bon, toute ta détresse, je t'ai entendu, hein, mais qu'est-ce que vous me dites, hein? Et le patron a dit simplement, t'es un bon serveur. Voilà. Il n'a pas dit, tu sais, tout ce que tu as vécu, tu sais, des choses qui arrivent, t'es pas fait pour ce boulot, peut-être, je t'ai trop demandé, non. Il lui a dit simplement ce qu'il fallait lui dire. Il s'est senti aimé, estimé, reconnu, quoi. C'était pas pour dire que tu réussis pas bien, hop, et puis que, voilà, il y avait une relation qui s'était établie. Ben voilà, c'est ça. Demeurer dans la maison, c'est pas nécessairement aller habiter, hein, chez l'autre, mais avec cette relation qui s'établit. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, la conversion. Parce que Jésus demeure, oui, il y a cette conversion, et cette conversion devient partage. Il devient partage. Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà. C'est-à-dire que Zachée a saisi ce qu'était le vrai trésor. Il existe, et vous savez, aimer, c'est dire à Dieu, tu existes, mais c'est dire à chacun et à chacune, tu existes, même si je ne comprends pas bien. Il a trouvé le vrai trésor, il en paie le prix, il se convertit, il partage. Voilà, Zachée, le salut est venu le prendre là où il était, pas ailleurs. Et il l'a pris tout entier. Puis il y a ces mots qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Hein. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Aujourd'hui. Vous savez, quand Jésus, bon, là, prononce ses premiers mots, là, à la synagogue, enfin, ses premiers mots, là, dans la prière publique, hein, à la synagogue, Nazareth, hein. Mais aujourd'hui s'accomplit la parole de Dieu. Aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'aujourd'hui de Zachée, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Le pape François insiste beaucoup pour dire, en particulier par rapport aux jeunes, vous savez, Panama, bon, JMJ, pour dire, on dit les jeunes sont l'avenir. Non, ils ne sont pas l'avenir d'Église, ils sont le maintenant d'Église. Et aussi, ce n'est pas pour nous consoler quand on avance un âge, hein. Mais le pape insiste beaucoup aussi pour dire la rupture des générations. Hein, la rupture, hein, c'est bien accueillir la grâce de chaque génération. Il dit, non, la rupture, c'est quelque chose de négatif. Hein, pour dire, non, on ne fait plus cela, ou on revient à cela, ou non. Non, non, c'est toujours le maintenant. Maintenant, Puis si le Seigneur nous donne de vivre, continuer à vivre et avoir une mission, un ministère, c'est parce qu'il veut dire aujourd'hui. J'ai besoin de l'aujourd'hui de ta vie pour dire l'aujourd'hui de ma parole. Et voilà. Alors, il y a quelque chose d'étonnant. Hein. Dire un collecteur d'impôts, alors que les gens là, protestent en disant « Oh là là, mais c'est ici où il a mis les pieds, là, ce prophète qui est Jésus. Lui aussi un fils d'Abraham. » Vous vous rendez compte, hein ? L'envergure d'Abraham, le petit Zachée sur son sycomore, le collecteur d'impôts. Et dire lui aussi un fils d'Abraham, un fils de la promesse. En lui s'accomplit la promesse de Dieu. Mais oui, l'aujourd'hui du salut n'est pas seulement le présent de Zachée, mais c'est un avenir commun pour tous les hommes que Dieu vient chercher et sauver. Alors on peut dire que c'est l'humilité véritable. Il y a des livres assez récents là, qui sont souvent aussi pleins de saveurs. C'est Fabrice Hadjadj, vous savez, La foi des démons. Qu'est-ce qu'il dit ? L'humilité véritable. On voit l'humilité de Zachée, mais plus encore l'humilité de Jésus. L'humilité véritable. Alors quand il s'agit de Zachée, c'est pas de se rabaisser, elle est de se laisser relever par Dieu. Voilà, vous voyez. Alors il y a quelque chose qui nous est dit là du sacrement du pardon. Pas là, vous vous rendez compte ce que vous avez fait. Oui, c'est vrai, il faut mesurer aussi la gravité du mal. Mais en même temps, c'est pour se laisser remettre debout. Et Hadjadj dit, l'humilité véritable, c'est de se laisser relever par Dieu. Et c'est là le plus difficile. Elle est aussi de relever les autres à nos propres yeux. Et c'est là, parfois, le plus douloureux aussi. Relever l'autre, l'aider à se relever, et pas seulement en disant « Ah, quand même, c'est moi qui fais ça pour lui. » Vous savez, vous rendez compte ce que j'ai pu faire pour lui, pourtant. » Et c'est de dire « Lui, parce qu'il avait aussi du prix aux yeux de Dieu. »
Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Monseigneur Georges Soubrier nous parle du pardon.
Voilà. Eh bien, j'ai insisté sur ce passage d'Évangile. Pourquoi ? Pour dire en quelle réconciliation croyons-nous ? C'est pas parce que j'ai soif que le verset est renversé, non. C'est pour dire en quelle réconciliation croyons-nous ? On a vécu l'année de la miséricorde. C'est vrai, on dit, la réconciliation, on a la foi, il faut... Mais la réconciliation... Elle est au cœur de notre foi. Je crois en Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Il est le Fils de l'homme venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile ? Les disciples, si Jésus fait des miracles, des choses extraordinaires, il parle comme personne n'a parlé, oui. Mais quand il va chercher et sauver ce qui est perdu, c'est là que ça pose question. Nous croyons en l'amour de Dieu qui est à la fois miséricorde infinie pour le pécheur et refus sans concession du péché. À Zachée, ton métier, tout ça, c'est sûr, il faut quand même, c'est pas comme si, on était au temple. Non. Zachée, il a pris conscience de son péché. Il m'a dit souvent, parce que, l'année de la miséricorde, souvent appelée, à participer à des sessions. Non, mais je trouve, Monseigneur, on parle trop de miséricorde et pas assez de justice. Je dis, mais la miséricorde ne s'oppose pas à la justice. Dieu est miséricorde, et pourtant il est le Dieu juste. Alors, la miséricorde, c'est la façon dont Dieu fait justice. Et je m'explique. C'est-à-dire cette miséricorde infinie pour le pécheur, pour le relever, et en même temps le refus sans concession du péché. Le refus sans concession du péché. difficile, c'est vertigineux. Et cette rencontre avec Zachée, comme ça, si, ça y est, Zachée, son sycomore, tout ça, c'est un peu folklore, comme disent les jeunes. Bon. Mais il y a quelque chose qui se dit et qui va au cœur de notre foi. Alors, je pense à ce qu'écrivait Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel, hein, témoin de la foi en France en plein XXe siècle. Là, à Ivry, cité marquée par le marxiste, elle aussi, avec, toute la dimension sociale de sa vie et de son témoignage. Et elle disait, Madeleine Delbrel, que notre vie de chrétien, c'est un chemin vertigineux, une marche entre deux abîmes. L'un est l'abîme mesurable des rejets de Dieu. Un abîme, c'est un abîme, on peut perdre cœur. Mais c'est un abîme indéfini. On ne peut pas le mesurer. Parce qu'on peut perdre cœur, oui, en voyant le mal, et quand ce mal devient aussi tout proche, et là, qu'il atteint l'Église. Et l'autre, l'abîme insondable des mystères de Dieu. Deux abîmes, hein, c'est ça, un chemin de crête. Montagne, chemin de crête, on sait ce que c'est, hein, ça donne le vertige. D'un côté, il y a un abîme mesurable des refus de Dieu par le monde, de tous ceux vraiment qui est la victoire du mal et qui peut atteindre l'être dans ce qu'il croit apporter en lui de meilleur. Et l'autre, l'abîme insondable des mystères de Dieu. Le sacrement de réconciliation, et je vais dans ces 10 minutes-là donner des éléments essentiels, reprendra après la pause. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop épuisé. Ça va ? Bon. Alors, le sacrement de réconciliation dans l'Église, il est né d'un étonnement, voire d'un scandale. Comment il s'est présenté ? Voilà, vous savez, dans un diocèse, bon, comme Nantes, quand je suis arrivé dans le diocèse de Nantes, c'était un moment aussi où il y avait eu des décisions, Rome, par rapport, solution collective, par rapport à... Et alors, il y avait tout ce travail à faire et j'ai dit, je suis un évêque, évidemment, hein, collège des évêques, fidélité, au pape. Hein. Et en même temps, une vérité aussi à vivre comme pasteur. Alors j'ai dit, je ne vais pas commencer par dire, même si ça me paraît important, hein, et je le dirai aussi, comment, il y a ces textes-là et qu'il faut comprendre. Mais j'ai dit, il faut se resituer. Ce n'est pas d'abord une question, il ne faut pas. Mais de quoi on parle ? Et d'où ça vient ? Et qu'est-ce que nous dit l'Église ? L'Église regarde la foi de l'Église. La foi de l'Église, elle a été troublée. À quel moment ? Regardez les premiers siècles. Les premiers siècles, des chrétiens devenus chrétiens à l'âge adulte. Baptisés, vous savez, les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie, des gens qui avaient vécu, puis il y avait les persécutions, qui avaient adhéré à la foi chrétienne, puis qui avaient entendu ces mots que l'on entend au chapitre 6e de l'Épître aux Romains. Si nous sommes morts au péché, comment continuer à vivre en lui ? Nous vivons une vie nouvelle. La mort du Christ fut une mort au péché, une fois pour toutes. Sa vie est une vie en Dieu. Regardons-nous donc comme morts au péché et vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Voilà ces paroles entendues, mon du baptême, plongées dans la passion, la mort et la résurrection du Christ. Or, dans cette église, il y avait des gens qui, là, trahissaient leur foi. Et un moment où vraiment une église qui était une église témoignante, les persécutions, puis tout ce qu'il fallait vivre, qui était là, refuser toute complicité avec le mal. Alors, que faire avec ceux qui ensuite se repentaient, ceux qui avaient trahi, ceux qui pouvaient même avoir dénoncé Et puis, je disais, mais ce que j'ai fait, c'est terrible. Que faire? Eh bien, ça a demandé, là aussi, hein, toute une réflexion, là, en Église, pour, là, se situer toujours dans la perspective de cette foi baptismale. Il y avait ce scandale, des scandaleux, vous ne savez pas que faire avec eux. Mais il y avait quelque chose aussi de plus étonnant encore. C'était l'abîme insondable des mystères de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Alors comment tenir ensemble cette conviction pleine d'espérance, la miséricorde de Dieu qui ouvre un chemin? Rien n'est fini, rien n'est perdu pour Dieu, nul n'est trop loin. Et puis de l'autre, eh bien, cette expérience-là du mal, du péché. Comment à la fois mettre en question et mettre debout celui qui a péché? Mettre en question et mettre debout. Il faut se situer dans la lumière de la foi. Il faut se situer dans la lumière de la foi pour arriver ainsi à cette vérité. Dit dans le psaume 50, tu veux au fond de moi la vérité. C'est-à-dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux toi, à travers tout ça? Tu veux la vérité. Toi, le Dieu de miséricorde, tu veux la vérité. Alors voilà, ce sera tout un approfondissement de cette promesse faite à l'Église, le pouvoir de lier et de délier. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas traiter simplement individuellement, en disant je fais ceci, je fais cela, j'essaie. C'est dans la foi de l'Église. Et après le Notre Père, là, il y a cette prière personnelle du prêtre, hein, mais voilà, prière qui est connue de tous. Hein. Seigneur, ne regarde pas mes péchés, regarde la foi de ton Église. La foi de l'Église. C'est-à-dire que là, parler du sacrement de réconciliation, c'est toujours se situer dans la foi de l'Église. Ce n'est pas pour avoir la réponse immédiate à nos problèmes, mais c'est pour se dire attention, hein. Attention. Il ne faut pas regarder les choses uniquement d'une façon légaliste. Très beau livre qui a été écrit par un prêtre avec lequel j'ai beaucoup travaillé, théologien, hein, Père Jean-Noël Besançon, qui est décédé il y a quelques années. Un livre qui s'intitule « Dieu ne sait pas compter ». C'est une façon paradoxale, vous savez, hein, il y a, bon, on le verra dans l'évangile de ce soir, hein, le semeur, là, messe. On le voit aussi, le berger, hein, qui abandonne 99 brebis pour aller chercher l'autre, quand même. Hein. S'il avait un peu le sens de la rentabilité, si ça avait vraiment compté. Hein. Eh bien, oui, c'est vrai. S'ouvrir au mystère de Dieu. Alors cet approfondissement, comment il va se faire? Eh bien, l'Église, là, qui a conscience d'avoir reçu de Dieu cette capacité de délier les hommes de leurs péchés, et même des péchés qui compromettent l'amitié avec Dieu, scellée lors de l'entrée dans son peuple. Alors, ben, il y aura ces pénitences, ces conversions. Hein. Ce n'était pas dire à notre Père, et toi, je vous salue Marie. Hein. C'était quelquefois un pèlerinage en Terre Sainte, c'était donner ceci, c'était donner cela, c'était se situer dans une démarche de pardon, hein. C'était se situer dans une démarche de conversion. Et qui se rendait possible cette démarche de conversion? C'était pas simplement j'ai à payer, j'ai fait, je dois payer. Parce que c'est décourageant, c'est écrasant, on peut même se suicider avec ça. Et c'était bon. Et aujourd'hui aussi, nous le voyons bien, hein, là, à travers ce que nous vivons, à travers le sacrement du pardon, à travers cette découverte. Et il est sûr que là, pendant des périodes qui étaient des périodes bon, où on était porté par la foi de l'Église, il y avait des choses qui se disaient, qui se vivaient, quelquefois d'une façon peu étonnante. Hein. J'étais séminariste encore, diocèse de Rodez, là, pèlerinage à Lourdes. Alors, ben, il y avait quand même, parmi les gens pratiquants, vous savez, moi, j'étais quand même dans un lieu où, enfant de cœur, Le prêtre me disait, mais il y en a encore deux cette année qui n'ont pas fait leur Pâques. Hein. Voilà. C'était ça, à peu près, quoi. C'était, bon, ben, on pourrait dire hein, qu'on était... Mais en même temps, il y avait quand même une foi profonde, parce que cette foi qui se vivait par rapport à la mort. Hein, bon, on savait que la vie, ben, elle a une fin, que c'est un pèlerinage, qu'il y avait un horizon, on n'était pas informé de toutes les informations qu'il y a dans le monde. Hein. C'était un manque. Hein. Mais en même temps, bon... Puis aussi, il y avait des formes de solidarité. Oh là là, on était entre voisins très méfiants, hein, les uns par rapport aux autres. Hein. Mais en même temps, quelqu'un, ben, oui, des mendiants qui passaient, bon, tout ça. Bon, mais à Lourdes, ben, je vois quand même, quelqu'un dit, ben, tu sais, ce serait bien quand même à Lourdes, vous savez, on peut parler plus longtemps avec le prêtre, il n'y a pas des fils, là, bien, ce lieu... Alors je vois ce monsieur qui est allé se confesser, il dit « Ah, ben parce que vous l'avez dit, je suis allé, là, le séminariste m'avait dit ça. » Il dit « J'ai pas trop souffert. » Bon, j'ai pas trop souffert. Bon, mais c'était dire, si vous voulez, qu'il y avait... Bon, bon. Puis alors après, c'est vrai qu'après, quand cette foi était moins... Ben oui, il faut aller, ben il faut bien, il y a... Puis, bon, quelque chose qui se perd. Puis alors, dans l'Église, on essaie de redonner le sens en disant « Bon... » Il y a des temps de réflexion, de prière, on lira l'évangile, on essaiera de vous aider. Bon, puis ben, je reviendrai cet après-midi pour dire, ben oui, il y a beaucoup de personnes, alors l'absolution personnelle, dialogue avec un prêtre, tout ça remis en cause. Bon, mais en même temps, je sens bien qu'il y a là quelque chose, une démarche. Ce qui se vit aussi, ce que j'ai vu dans le diocèse de Nantes, hein, à travers, bon... Lourdes, mais les JMJ, quand même, les JMJ, près de 7000 jeunes hein, qui étaient à Pontchâteau, là, quand on s'est rendu à Paris pour les JMJ avec le pape Jean-Paul II. Bon, tous ces temps, enfin, sacrement du pardon qui est. Voilà. Alors, découvrir à la fois cette dimension personnelle. Et puis en même temps, situé en Église, c'est dans la foi de l'Église, voilà, que je reçois le pardon de Dieu. Alors du coup, ben, c'est vrai, sacrement de la confession. Mais confession, tu as dit simplement, confesser ses péchés. Voilà, j'ai dit mes péchés. Mais confession, comment dire cette confession des péchés si on ne pense pas aussi à ce mot fondamentale de la confession de foi. Confession de foi, confession des péchés, mais confession des péchés dans la confession de foi. Alors, oui, sacrement de réconciliation, Dieu qui nous réconcilie avec lui, avec nos frères. Sacrement du pardon, l'amour de Dieu qui va jusqu'au pardon. Et le pardon, je reviendrai cet après-midi, c'est un don d'avenir. Sacrement de la pénitence, oui, dans son amour, Dieu nous pardonne, nous réconcilie et il nous invite aussi à vivre cette conversion comme une façon aussi de vivre autrement le partage avec les autres. C'est vrai, c'est s'ouvrir ainsi à ce que le Seigneur nous demande d'être et de vivre. Et je termine par là, avant ce temps là de repos, enfin, cette pause. Dieu, à travers Jésus, n'a pas dit à Zachée, tu sais, hein, tu as besoin de salut, hein. Oh, quand on te voit vivre, hein, vraiment, hein, tu sais, t'es pas sans besoin, hein. Il n'a pas dit d'abord ça. Il n'a pas dit à Zachée, tu as besoin de salut. Il faut que tu m'acceptes chez toi, hein. M'ouvre quand même un peu la porte. Il lui a dit, il me faut demeurer aujourd'hui chez toi. Il me faut demeurer aujourd'hui chez toi. Marquez que Jésus aussi, quand il instituera l'Eucharistie, ne dit pas, bah vous savez, hein, quand même il faut célébrer la Pâque, hein, vous avez besoin que je célèbre cette Pâque avec vous. Mais il dira, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Le salut, c'est pas d'abord notre soulagement d'être arraché au mal. Le salut, c'est la joie de Dieu d'accomplir en nous ce dont il rêve depuis toujours. J'ai commencé par le désir, je termine par le désir. Cette rencontre de deux désirs, mais vous savez, c'est la joie de Dieu. Hein, la brebis qui est perdue et qui est retrouvée. Réjouissez-vous avec moi. Il y a plus de joie au ciel. Il y a de la joie au ciel pour ceux qui vivent dans la fidélité au Seigneur. Mais il y a grande joie au ciel pour celui qu'on considérait comme perdu et qui est retrouvé. Ben, c'est la joie de Dieu. La joie d'être sauvé. Voilà.
Vous venez d'entendre le premier volet d'une conférence sur le pardon donnée par Mgr Georges Soubrier au Centre spirituel de Kerguénec le 24 juillet 2019. En conclusion, un extrait du petit livre « Le visage de la miséricorde » du pape François en mai 2015. Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur, se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour être heureux. Accueillons donc la demande de l'apôtre « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur radiofidélité.fr et que vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de la radio. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne.